Jean Richevin, L'enquête d'Aldebert Gonf, L'étrange café. Il est certain qu'à première vue, ce café de province n'avait rien du tout qui pût le faire qualifier d'étrange. À seconde et même à troisième vue, au reste pas davantage. Pour tout dire, il est un de ces cafés quelconques dans lesquels il semble qu'on passerait mille et mille fois, non seulement sans les trouver étranges, mais sans seulement les remarquer. Allons jusqu'au bord de la vérité, jusqu'au bout, bien sévère, et avouons que c'était le café le plus ordinaire et le plus banal du monde. Et cependant, ainsi qu'on va le juger bientôt, c'est un étrange, un très étrange café. Mais voilà, pour s'apercevoir que ce café était un étrange café, il fallait être notre vieil ami Aldebert Gonf, c'est-à-dire un observateur s'intéressant à tout, cherchant le pourquoi et le comment des choses et le trouvant. Or, Aldebert Gonf, en ce temps-là professeur suppléant de philosophie au collège de cette petite ville, Aldebert Gonf logeait précisément en face du dit café. Et tout d'abord, il avait remarqué, de sa fenêtre même, que le café s'appelait Café du Théâtre. De la rue, on ne distinguait pas cette inscription, toujours cachée par le haut d'une tente à demi ouverte sur une terrasse vide, et dont le mécanisme détraqué ne permettait plus de relever ni de rabaisser cet inutile abri. Cet abri ne servait désormais qu'à dissimuler, semble-t-il, cette inscription. Et à juste titre, pensa tout de suite notre subtil ami, qui en inféra sagement, « Oh, c'est pas un accident du hasard, mais bien l'expresse volonté d'un honnête propriétaire, ennemi du mensonge. » Il faut savoir en effet que ce café, intitulé « Café du Théâtre », n'était dans le voisinage d'aucun théâtre pour l'excellente raison qu'il n'y avait point de théâtre dans la ville. Et cela d'abord, on en conviendra, constituait, à ce café si ordinaire d'aspect, un droit absolu à être qualifié de café plutôt étrange. Mais Aldebert Gonf trouva vite d'autres raisons, non moins fortes, à l'appeler ainsi. Et voici quelques-unes soigneusement notées par sa sagace observation. Le patron du café était une patronne. Toutefois, quoique femme, elle avait l'air d'un homme. Ou plutôt, et c'est cela qui était étrange, elle affectait d'avoir l'air d'un homme. Par son costume d'abord, lequel consistait en un corsage de drap, ouvert en revers sur la poitrine, et pareil ainsi à un frac de soirée. Du col à la taille, bien entendu, car à partir de la taille, l'apparence féminine dominait, grâce à la robe. Mais comme la patronne du café se tenait toujours assise dans un comptoir, on ne voyait d'elle que son buste. Or, ce buste, dans ce corsage spécial, évoquait impétueusement l'idée d'un gros monsieur vêtu pour une cérémonie. La tête de la patronne n'était point faite pour démentir une semblable idée. Les cheveux étaient coupés courts, frisés à la Titus. Et enfin, la lèvre supérieure et le menton étaient garnis de poils assez touffus pour faire un beau fer à cheval. Ce qui, entre parenthèses, incita notre fin Aldebert Gonf à formuler cette ingénieuse remarque. N'est-il pas singulier qu'on donne le nom de fer à cheval à ce genre de barbe, particulièrement en honneur chez les chasseurs à pied? Le garçon de l'étrange café n'était pas moins étrange que sa patronne. Il portait de très longues moustaches à la gauloise et avait l'accent alsacien. Mais il ne l'avait qu'en servant. Le reste du temps, il avait plutôt l'accent méridional. Il faudrait être le moins observateur des hommes pour ne pas subodorer là quelque chose de bizarre, de prémédité. Inutile de dire qu'Adalbert Gonfle subodora. Mais, toujours l'expert à expliquer tout, il en chercha et en trouva le chibolet. Il ne craignit pas pour en arriver là, à ses fins, à se lier, lui, professeur de philosophie, avec cet humble garçon de café. Son abnégation eut sa récompense. Il apprit ainsi que le garçon avait jadis été sapeur. De là, ses longues moustaches, dernier reste d'une énorme barbe sacrifiée dans sa partie inférieure aux exigences professionnelles. De là aussi, cet accent double. Pour les personnes qui ne comprendraient pas cette dernière assertion, je transcris ici joint l'importante note que voici, détachée du caractère d'Adalbert Rumpf. Les sapeurs de l'ancienne armée se recrutaient surtout d'Alsaciens et de méridionaux qui, par l'effet d'une cohabitation journalière, en arrivaient au bout de deux congés généralement à parler tantôt toulousain et tantôt chouflic, déformation et reformation des accents. On voit si les investigations de Albert Gonf étaient minutieuses et pensantes et pénétrantes. Non, n'en riez pas. C'est avec de menus faits de ce genre que se fait peu à peu ce trésor de science d'observation. Une autre chose rendait enfin très étrange l'étrange café, c'est sa clientèle. N'importe qui, vous ou moi, sur ce chapitre, fut resté court. Car en réalité, la clientèle de l'étrange café avait surtout ceci de spécial à savoir qu'elle existait peu. Mais un observateur comme notre judicieux Adalbert Gonf, ce peu suffisant pour être un objet d'aide, et dans ce peu lui-même, il sut découvrir tout le monde, et notamment que ce café représentait le microcosme de la vie provinciale, ni plus ni moins. La petite ville où il se trouvait, fière de posséder un tribunal, une caserne, un canonicat, un collège, des fabriques et un important commerce de fromage. Or, Adalbert Gonf ne fut pas long à discerner, parmi les êtres rares clients du café, un greffier, un bedeau, des industriels et des commerçants. Avec lui-même figurant l'université et les quatre manchots anciens officiers, la société de la petite ville entière n'était-elle pas résumée ici dans l'étrange café? Fort de ce résultat, Adalbert Gonf eut enfin la clé du mystère par quoi ce café s'intitulait « Café du théâtre » dans une ville où il n'y avait point de théâtre. Ce titre, évidemment, était symbolique. Comme le théâtre est le miroir de la vie, l'étrange café était le miroir de la ville. Ne hissons pas, cependant, la gloire d'Adalbert en gonfle sur un pinacle immérité. Si espace et ingénieux que fut notre ami, un élément lui restait irréductible parmi tout ceci qui constitue l'étrangeté de l'étrange café. Cet élément, c'était les quatre manchots. Tous les jours, à l'heure de la demi-tasse, les quatre manchots arrivaient à l'étrange café, s'y asseyaient à la même table et jouaient une partie de domino. De leurs habitudes régulières, de leur infirmité, Adalbert Golf se rendait compte parfaitement. C'était, il le savait, d'anciens officiers qui avaient été mutés à la guerre. Mais voici où commençait l'étrange. Deux d'entre eux étaient manchots du bras droit, et deux l'étaient du bras gauche. Et toujours, les deux manchots au bras droit étaient ensemble, comme les deux manchots du bras gauche. Cela invariablement, mais pourquoi ? Longtemps, le Bergonf se creusa la tête pour en déterminer la cause. Il n'y parvint pas. Sans doute, pensez-vous, il n'avait qu'à interroger les quatre manchots. Et c'est bien ce qu'il se décida finalement à faire, mais en tremblant, car les quatre manchots ne passaient pas pour avoir l'humeur commode. L'eurent-ils avec lui ? C'est ce dont vous jugerez vous-même en lisant l'extrait suivant des enquêtes d'Adalbert Gonf. Il y a des choses qu'il faut recueillir sans essayer de les comprendre. Telle est la réponse de vieux capitaine touchante et insondable. Monsieur, c'est bien simple. Nous jouons ainsi au domino en souvenir de la prise du Trocadéro, où nous avons perdu nos bras. Les dés qui sont manchots du bas, du bras droit, étaient à l'aile droite de l'armée, et les deux qui sont manchots du bras gauche étaient à l'aile gauche.